France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Vous l'aurez compris, écoutons la nature, écoutons-la vraiment. C'est une journée spéciale sur France Inter, consacrée à la biodiversité. Émission, reportage tout au long de la journée, avec notamment le 13-14 de Bruno Duvic et la Terre au carré de Mathieu Bidard. Ils seront tous deux en direct du Marais Poitevin, dans la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon. Ce sera la une du journal juste après les autres titres, Agnès.
La fin de vie, une expérience à la fois intime et universelle, et un énième débat à l'Assemblée aujourd'hui. La crise du Covid et l'inquiétante situation sanitaire dans la bande de Gaza. La quarantaine dans la quarantaine de Thomas Pesquet, à 2 semaines du décollage vers la Station Spatiale Internationale. Et puis la neige bavaroise n'a pas refroidi les bouillants parisiens qui s'imposent 3-2.
Invité et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h50,
Léa. Oui, d'abord c'est l'histoire folle du tableau le plus cher du monde, le Salvator Mundi attribué à Léonard de Vinci. Mais est-ce un vrai? Est-ce un faux? Qui s'est fait avoir dans cette affaire qui mêle vérité, argent et pouvoir? Antoine Witkin, le réalisateur de ce documentaire vraiment ahurissant, nous explique tout ça à 7h50.
Écoutons donc la nature à 7h15, le zoom, comment protéger les calanques de Marseille. À 7h20, la chronique environnement à l'écoute des oiseaux. Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David, et la primatologue Sabrina Krief. Vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter. Comment ne pas penser à Diane Fossé, pionnière de la protection des gorilles dans les années 70 et à son combat, popularisé par Sigourney Weaver dans le film Gorilles dans la brume. Mais à côté de ces animaux emblématiques, ce sont 1 million d'espèces animales et végétales qui sont aujourd'hui menacées d'extinction, selon l'étude scientifique des Nations Unies publiée en 2019, avec certaines espèces qui suscitent beaucoup moins d'empathie. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Alors si un petit ours polaire n'aura pas de mal à trouver de défenseur, il faut aussi sauver des animaux utiles, mais pas forcément mignons.
Oui, on est souvent sensible aux gros animaux emblématiques qui font de belles peluches, les koalas, les éléphants, les pandas. Et pourtant, les espèces moins visibles ou mal aimées, celles qui piquent, celles qui sont visqueuses, ont aussi besoin de protection, explique Guillaume Lecointre, zoologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle.
On ne fera jamais une peluche de vers de terre, qui ne font pas partie des animaux les préférés en général. Ils sont même plutôt vus comme un peu dégoûtants. Les vers de terre jouent un rôle majeur dans l'aération des sols et le cycle de la matière dans les sols. Les vers de terre sont très précieux et améliorent la rentabilité des sols. Donc oui, les moches, en ne les préservant pas, ça peut coûter très cher.
Pareil pour les insectes pollinisateurs, les 3/4 des cultures agricoles en dépendent.
Et Sandy, c'est prouvé scientifiquement, on a naturellement plus de sympathie pour les espèces qui nous ressemblent.
Oui, car au-delà de facteurs historiques ou culturels, notre compassion pour les animaux dépend de notre degré de parenté. C'est la conclusion d'une étude récente menée auprès de 3000 personnes à qui on a montré des photos d'animaux, étude à laquelle a participé le professeur Lecointre.
La personne interrogée avait 22 couples de photos tirées au hasard. Et on a pu faire des statistiques. Plus l'espèce nous est proche cousine, et plus nous avons d'empathie, plus nous avons de compassion. Ah bah on a largement plus d'empathie et de compassion à l'égard d'un grand primate que nous n'en avons à l'égard des rongeurs. Et on en a davantage à l'égard des rongeurs que nous n'en avons à l'égard des lézards.
Et ce classement impacte forcément sur nos préférences en matière de protection.
Merci Sandy Dauphin. Alors pour regarder autrement les vers de terre et autres crapauds, journée spéciale biodiversité sur France Inter. Prochain rendez-vous à 7h15 pour un zoom dans les calanques marseillaises.
Il est 7h04, le débat sans fin, Agnès, sur la fin de vie.
Une nouvelle proposition de loi sur l'euthanasie sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Texte porté par le député de centre-gauche Olivier Falorni dans le cadre de la niche parlementaire de son groupe. Texte qui n'a aucune chance d'aboutir en raison de l'obstruction menée par quelques députés Les Républicains qui ont déposé plus de 2000 amendements, impossible à examiner en quelques heures. Et Maxence Lambrecq, cette incapacité de la France à mener un débat digne et serein sur l'euthanasie est un classique de la vie politique française depuis 1978.
Il y a plus de 40 ans, l'euthanasie s'invite au Sénat.
Je faisais à ce moment-là scandale. J'étais marginal.
Henri Caillavé, du Parti Radical, présente un premier texte.
L'euthanasie est reconnue par la Suisse, les Pays-Bas, par le Danemark, une loi fédérale américaine. Ce qui se fait ailleurs peut se faire aussi chez nous. C'est la lutte que nous menons avec l'espoir de réussir.
Lutte reprise avec force en 2002 par Vincent Humbert. Sa mère met fin à ses souffrances et porte sa parole.
Je veux mourir, je ne veux plus de cette vie-là, maman. J'en ai marre, je souffre trop, je veux mourir. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là ?
Face à elle, le ministre de la Santé de Jacques Chirac, Jean-François Mattei.
Il faut établir des règles générales. Les parlementaires sont au travail. Je ne pense pas que nous puissions rester aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes.
Résultat, la première loi, Leonetti, et son droit au laisser-mourir. 2012, François Hollande veut aller au-delà.
Pour toutes celles et tous ceux qui attendent la loi sur la fin de vie annoncée par le président de la République, l'inquiétude est immense.
L'écolo Véronique Massonneau a raison de s'inquiéter. L'exécutif privilégie le consensus. Deuxième loi, Claes Leonetti.
Ce texte n'est pas un texte qui ouvre un droit à la mort.
Il autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Car Jean Leonetti voit dans l'euthanasie la dépénalisation d'un homicide.
Et pour poursuivre la réflexion sur la fin de vie, rendez-vous sur franceinter.fr. Emmanuel Macron recevra cet après-midi les plus hauts fonctionnaires de l'État pour leur annoncer une réforme de grande ampleur, avec une mesure phare et symbolique, la suppression pure et simple de l'ENA. Une autre école sera créée pour former les hauts cadres de la fonction publique, une école au recrutement plus ouvert. Le détail de cette réforme dans le journal de 8 heures. L'impossible entente européenne sur le vaccin AstraZeneca, au lendemain des conclusions de l'Agence européenne du médicament sur les caillots sanguins, officiellement répertoriés comme effet secondaire très rare du vaccin anglo-suédois, avec une balance bénéfice-risque qui reste très positive. Chaque pays conserve pourtant ses propres recommandations. En Italie, en Espagne et en Allemagne, AstraZeneca est réservé aux plus de 60 ans, limite fixée à 55 par la France et la Belgique et à 30 ans par le Royaume-Uni. Une vaccination qui peine à démarrer dans la bande de Gaza, où la situation sanitaire est particulièrement inquiétante, avec près de 2000 nouveaux cas recensés en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie. Reportage d'Alice Froussard, correspondante de France Inter dans les territoires palestiniens.
Dans la bande de Gaza, un test corona sur 3 revient positif. La situation est critique, estiment les médecins sur place, dangereuse, car ces contaminations sont liées à l'arrivée du variant britannique. Certaines personnes qui ont déjà été malades le sont donc à nouveau. La seule solution pour inverser la courbe des infections serait l'arrivée d'un grand nombre de vaccins, estime Majdi Der, directeur général adjoint des soins de santé primaire au ministère de la Santé de Gaza.
Ce vaccin doit être gratuit, facultatif pour les citoyens qui souhaitent se faire vacciner. Nous espérons surtout que toute la population ciblée et qui a besoin d'être vaccinée pourra le faire. Ici à Gaza, on estime qu'environ 1 200 000 personnes en a besoin.
Car le nombre de cas graves augmente aussi dans les hôpitaux qui sont déjà pleins. Et si Gaza a reçu quelques 80 000 doses de vaccins grâce au dispositif COVAX et à d'autres donateurs, seulement 1% des 2 millions d'habitants ont pu recevoir une première dose, soit un peu plus de 25 000 personnes. C'est trop peu pour ce territoire densément peuplé et sous blocus, explique Beth Oppenheim de l'organisation Gisha.
Le problème ici, c'est qu'Israël est une puissance occupante à Gaza. C'est donc une puissance occupante selon le droit international. Et cela implique des obligations légales concernant les Palestiniens, comme des obligations morales.
En attendant, les autorités gazaouies ont imposé hier soir un confinement total jusqu'à la semaine prochaine. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Et une bouffée d'oxygène à venir pour les Palestiniens. Washington va de nouveau contribuer à l'aide financière de l'ONU pour les Palestiniens à hauteur de 235 millions de dollars. Joe Biden qui a redit hier son soutien à une solution à deux États.
Il est 7h09, la colère gronde à Boulogne-Billancourt.
Avec un rassemblement aujourd'hui devant le siège historique de Renault, la CGT appelle également à des grèves sur d'autres sites. C'est le projet Renault-Lution, accompagné d'un plan d'économie présenté l'an dernier qui a du mal à passer, Maxime Debs.
C'est Franck Daout de la CFDT Renault qui pose le diagnostic.
On a une entreprise qui est malade, une entreprise qui est convalescente, je dirais, qui veut revenir à l'entraînement et dans la compétition trop vite et qui est en train de mettre en souffrance ses salariés.
Des salariés incités à partir, à saisir l'opportunité de la rupture conventionnelle collective négociée avec les syndicats. Dispositif limité à 1900 candidats. Problème, ils ne sont que 300 à s'être fait connaître jusqu'ici.
Les gens n'ont pas envie de partir de chez Renault, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas du tout de succès, cette RCC. On pourra mettre ce qu'on veut sur la table, on n'arrivera pas aux objectifs que s'est fixé la direction, clairement.
Direction qui a fini la semaine dernière par revoir à la hausse le montant du chèque de départ, répétant qu'il n'y aura aucun départ contraint. Rictus des syndicats, alors que sur le site de Lardy, par exemple dans l'Essonne, le transfert de l'activité d'une trentaine de salariés à une entreprise sous-traitante est envisagé. Guillaume Ribert de la la CFE-CGC.
Ces personnes-là devront quitter Renault pour zéro indemnité ou si effectivement tu acceptes ou tu t'en vas. Et ça, pour nous, c'est inconcevable, c'est inacceptable et on vit comme une trahison par rapport à l'accord.
Sur ce point, la direction veut visiblement calmer les choses. Selon nos informations, une négociation sera bien ouverte pour cette poignée de salariés. L'annonce doit en être faite aujourd'hui.
La quarantaine dans la quarantaine pour Thomas Pesquet, qui doit décoller de Houston dans 2 semaines pour une nouvelle mission dans la Station Spatiale Internationale. La NASA, particulièrement pointilleuse, a limité les déplacements, les visites de l'extérieur et les activités en groupe de l'équipage. Alors, comment s'occuper dans ces conditions? Thomas Pesquet avec Sophie Becherel.
On a des activités limitées. On a encore quelques séances de simulation, en fait, notamment pour le décollage, pour quand même pas tout oublier d'ici le lancement le 22 avril. Et puis voilà, plein de petites activités. En fait, ça me fait penser à un déménagement où on a monté le piano et le frigo au 7e étage. Donc, on a fait le plus dur, mais il reste tous les petits cartons de bibelots un peu disparates dont il faut s'occuper, ce qui prend beaucoup de temps. Par exemple, tout ce qu'on portera avec nous sur notre scaphandre ou dans notre petite sacoche avec laquelle on monte dans la capsule, quelle montre, comment on va la porter, le miroir qui nous sert en fait au poignet, qui nous sert à regarder, vérifier que le scaphandre est bien fermé, un chronomètre, une lampe frontale, enfin des choses un peu qui ont l'air d'être des détails, mais qu'il faut quand même régler avant de partir. Et puis tout ça, ça va nous emmener tranquillement vers Cap Canaveral. Et là, on va plutôt s'occuper de notre véhicule, des scaphandres, briefing météo et toutes ces choses-là. Et ensuite, on va décoller tranquillement le 22.
La fusée Mbappé, elle a déjà décollé.
Oh oui.
2 buts inscrits hier soir par l'attaquant du PSG face au Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un Kylian Mbappé secondé par un Neymar en grande forme. Et voilà le PSG qui s'impose à Munich 3-2. Alexandre Vaux.
C'est simple, les deux stars parisiennes sont impliquées sur les 3 buts de l'équipe hier soir. 2 réalisations de Kylian Mbappé, dont une sur une offrande de Neymar, passeur décisif lui aussi. À 2 reprises, le Brésilien et le Français bien décidés à briller hier dans ce grand rendez-vous, a confié après le match Kylian Mbappé.
J'aime ce genre de match, après voilà, ça n'a pas toujours souri, et peut-être que dans le futur ça ne va pas me sourire encore, mais je ne suis pas là pour me cacher et j'aime bien jouer ce genre de match et être décisif.
Les deux cracks ont certainement joué hier un de leurs meilleurs matchs ensemble depuis leur arrivée au PSG à l'été 2017, le fruit aussi d'une remise en question, comme pour Kylian Mbappé après son triplé sur la pelouse de Barcelone le mois dernier. C'est l'avis du consultant en football de Radio France, Jérôme Alonso.
Kylian Mbappé réinvente un petit peu le poste, il prend de l'espace, il part d'un peu plus loin. Encore une fois, dans un grand rendez-vous, un grand Kylian Mbappé. On sait qu'il n'aime pas les critiques. En tout cas, le peu de critiques qu'il y a eu, il les a fait taire.
Mbappé et Neymar ont aussi fait renaître beaucoup d'espoir. Avec ce résultat, le PSG peut espérer éliminer le tenant du titre mardi au Parc des Princes et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Et à noter que de son côté, Chelsea s'est imposé à Porto 2-0.
Merci Agnès Soubiran. Comment protéger le parc national des Calanques à Marseille? C'est le Zoom dans 3 minutes.